journal Fabien Cazot. Bonjour Fabien.
Bonjour. L'Algérie retient son souffle au lendemain d'une mobilisation exceptionnelle. Le régime a jusqu'à demain pour confirmer ou infirmer une cinquième candidature Bouteflika à l'élection présidentielle. Nous irons à Alger. L'historien Benjamin Stora, spécialiste du Maghreb contemporain, très fin connaisseur de l'Algérie, sera notre invité. Une marche blanche ce matin à Die dans la Drôme, toujours sous le choc 2 semaines après la mort d'un bébé in utero. En cause, selon les manifestants, la fermeture de la maternité de proximité il y a 1 an. Parents indignés, tristesse et colère sur place. Dans ce journal également, les 50 ans du Concorde, l'oiseau supersonique fascine toujours autant à Toulouse, capitale de l'aéronautique, vous l'entendrez. Le sport, version militaire, avec une compétition pour aider les blessés de l'armée de terre à reprendre pied. La fantasy, version militaire, enfin celle chère à Alain Bachung, qu'offrait hommage à l'occasion des 10 ans de sa disparition. C'est une des prescriptions du service culture d'Inter. Rendez-vous à la fin de ce journal.
France Inter.
Quelle réponse du pouvoir algérien à la protesta? C'est le nom que les manifestants ont donné à leur mobilisation d'hier. Le régime a jusqu'à demain pour confirmer ou renoncer à une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République. On va y revenir dans quelques instants avec notre invité Benjamin Stora. Mais d'abord, quelles leçons tirer sur place aujourd'hui en ce lendemain de mobilisation exceptionnelle pour l'Algérie? Correspondance de Leïla Berato à Alger.
Ce matin, la presse algérienne parle d'un verdict implacable, d'une protesta immense. Hier, des centaines de milliers de personnes ont défilé dans tout le pays et l'ensemble des manifestations s'est déroulé dans le calme, même si des échauffourées ont eu lieu à Alger et qu'un homme est décédé dans un mouvement de foule. Les autorités avaient pourtant mis en garde toute la semaine contre les dérapages, rappelant que l'Algérie avait déjà souffert pendant les années 90 et que les opinions devaient s'exprimer dans les urnes. Mais les Algériens sont sortis quand même, encore plus nombreux que la semaine précédente. Hier, alors que les manifestations faisaient cette fois l'ouverture du journal télévisé officiel, les autorités n'ont pas fait de commentaires. Et dans ce contexte, de nouveaux appels à manifester ont été lancés, notamment pour demain, puisque c'est la date butoir pour que les candidats à l'élection présidentielle déposent leur dossier au Conseil constitutionnel et que le Premier ministre a affirmé qu'Abdelaziz Bouteflika, qui était hospitalisé en Suisse cette semaine, déposerait bien sa candidature. À Alger, Leïla Berato, RFI pour France Inter.
Bonjour Benjamin Stora.
Bonjour.
Historien spécialiste de l'Algérie, vous êtes vous-même né à Constantine, une des villes dans lesquelles les Algériens sont descendus dans la rue hier. Benjamin Stora, pensez-vous que la rue puisse gagner?
Ce serait difficile à dire, évidemment, parce qu'on connaît ce que veut faire le pouvoir algérien. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de renoncement du gouvernement aujourd'hui, qui continue d'affirmer que Abdelaziz Bouteflika, qui aujourd'hui fête ses 82 ans, c'est son jour anniversaire aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire, eh bien, va se présenter pour un cinquième mandat. Donc, et c'est une situation qui est naturellement très difficile à analyser et à concevoir pour l'avenir.
Ce silence, justement, cette réaction du pouvoir politique, selon vous, c'est peut être le signe de quoi?
Ah, le silence et l'affirmation, disons que tout doit continuer comme par le passé, n'est pas un bon signal, bien évidemment. Il n'y a pas de commentaire, comme vient de le dire votre correspondante à Alger, il n'y a pas de commentaire officiel aujourd'hui du gouvernement, du pouvoir algérien, par rapport à l'immense protestation qui a eu lieu dans toutes les villes d'Algérie, dans beaucoup de villes d'Algérie hier. Donc c'est ce silence-là, effectivement, qui laisse peut-être planer des menaces.
Selon vous, Abdelaziz Bouteflika peut-il renoncer à sa candidature?
C'est très difficile parce que vous savez, Abdelaziz Bouteflika en tant que personnage, lui-même, on l'entend pas, on le voit pas, donc il a 82 ans aujourd'hui et c'est surtout son entourage. Cet entourage est très complexe à analyser parce qu'il y a sa famille, bien sûr, il y a certains cercles, les services de sécurité, certains services de l'armée, pas tous, parce qu'il y a eu aussi des déplacements à l'intérieur de l'armée algérienne, y compris des arrestations ces derniers mois. Donc c'est surtout l'entourage qui va décider demain de ce qu'il va faire.
Justement, il y a d'autres candidats que le pouvoir pourrait présenter à sa place?
Ah, c'est, là aussi, c'est très difficile à dire. Il y a déjà des candidats qui voulaient, avant ces immenses manifestations, se présenter. On pense à Ali Benflis, au général Khedeli, d'autres encore, qui certains sont même descendus dans la rue hier dans les grandes manifestations. Mais le nom qui pourrait sortir du côté du pouvoir n'est pas encore connu.
Et s'il se présente, Abdelaziz Bouteflika pourrait perdre, selon vous? Est-ce que sa victoire serait automatique?
Bah, vous savez, dans les dernières élections présidentielles, notamment le quatrième mandat, on avait annoncé surtout un taux de participation astronomique que les Algériens n'ont jamais cru. Donc la question, ça va être le taux de participation. Or, ce qu'on a pu voir dans les manifestations, c'est que la participation était dans la rue, la participation électorale. Elle n'était pas dans les urnes à venir. Et c'est cela dont le pouvoir, disons, peut avoir peur dans les jours qui viennent.
Benjamin Stora, vous qui connaissez si bien l'Algérie et plus largement le Maghreb, est-ce qu'on peut ramener, selon vous, ce que vit l'Algérie en ce moment à, disons, un frémissement de printemps arabe ?
Vous savez que les Algériens récusent hein, cette disons analogie avec les printemps arabes parce que bon eux-mêmes ont traversé, on le sait, différentes épreuves, etc. Mais c'est un mouvement très important et qui signifie que plus rien ne peut se passer comme avant en Algérie. On avait cru que ce qu'on appelle la société, la rue, etc., était annihilée par le passé, par tout ce qui avait été fait, etc. Or, c'est pas du tout le cas. Il y a une immense jeunesse très, très au courant de tout, très à l'affût des bruits du monde par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et ce sera bien difficile, bien entendu, de faire en sorte que tout continue comme par le passé.
On sent aussi un attachement très fort au pays, au drapeau algérien qu'on a beaucoup vu dans les manifestations. C'est l'expression d'un patriotisme aussi, en quelques mots.
Oui, d'ailleurs, je veux dire, le refus du cinquième mandat, c'est par patriotisme, c'est pas du tout une fragilité ou une dislocation du lien national, au contraire, on estime que le renforcement du lien national doit passer par un rajeunissement des équipes politiques de direction.
Merci beaucoup Benjamin Stora d'avoir été en direct avec nous pour suivre la situation en Algérie, qu'on suivra évidemment tout le week-end sur France Inter. Merci à vous. Un autre pays dans lequel la population descend dans la rue dans une ambiance plus festive, quoique au Brésil, le carnaval de Rio qui commence en ce moment prend cette année une coloration très politique. Les opposants du nouveau président ultra-conservateur Jair Bolsonaro donnent de la voix au milieu des chars et des échos de samba. Reportage Anne Vigna.
La scène se passe dans un bloco de carnaval à Rio. La musique s'arrête pour lancer des insultes très claires au président Bolsonaro. Dans un autre bloco, on chante le nom de Lula, l'ancien président en prison depuis bientôt un an. La politique est bien partout cette année, car comme le dit Roger, le carnaval est le bon moment pour passer des messages.
Le carnaval est le moment où le Brésil se parle, car la population est de fait dans la rue. C'est un moment propice pour la politique, les gens écoutent plus attentivement les messages. Ce n'est pas le premier carnaval où il y a des messages politiques, mais forcément cette année c'est plus important étant donné le nombre d'attaques.
Un discours politique qui se retrouve aussi dans les traditionnelles écoles de samba, explique Raoud, un Brésilien marié à une Française.
Je pense que le carnaval c'est une grosse fête, tout le monde s'exprime. Les manifestations politiques sont bienvenues. Les défilés des écoles de samba. Et de plus en plus, on commence à voir c'est les questions de racisme, du rôle de la femme dans la société. Dans ce sens-là, je trouve que c'est super, c'est hyper bien.
Marielle Franco, activiste noire assassinée il y a un an et mise à l'honneur par l'école Manguera, alors que sa mémoire a été attaquée par les soutiens du président. Rio de Janeiro, Anne Vigna, France Inter.
En Europe, faut-il encore espérer un accord sur le Brexit ? Le négociateur européen Michel Barnier se dit prêt à donner de nouvelles garanties aux Britanniques sur la question de sa frontière avec l'Irlande. Si report du Brexit il y a, il doit servir un objectif clair qui est de sortir de l'impasse, estime-t-on, à Bruxelles. Et en France, toujours sur la question européenne, Emmanuel Macron prépare de son côté une intervention qualifiée ce matin d'importante par l'Élysée. Elle aura lieu en début de semaine prochaine, pas plus de précisions pour le moment sur la forme qu'elle prendra. La question des fermetures de maternité, douloureusement relancée par la mort d'un bébé in utero à Die, dans la Drôme. C'était le 18 février, un décès dû, selon la famille, à un délai de prise en charge trop long à cause de la fermeture de la maternité. Le collectif de défense de l'hôpital de Die organisait ce matin une marche blanche. Tommy Cataneo a suivi la mobilisation.
Cette marche blanche, elle s'est terminée avec la lecture du témoignage de Céline. C'est la maman d'Aimé, ce bébé mort in utero il y a une dizaine de jours. Elle raconte le soir où après 8 mois de grossesse, elle a fait une hémorragie, soirée terrible où elle va perdre son enfant à cause d'un décollement du placenta. Quand on donne la vie, on sait qu'il peut y avoir la mort, explique Fabrice, le papa. Mais là, on m'a trahi. C'était soit le centre périnatal de Die, soit l'hôpital de Montélimar à plus d'une heure de route. Ce n'est pas un choix, ça. L'hélicoptère, ils vont l'attendre 3 heures. Pour beaucoup de personnes qui assistent à la marche blanche, c'est la preuve en fait que le système censé remplacer la maternité de Die fermée fin 2017 ne fonctionne pas. C'est une angoisse pour les parents de la zone. Oui, disent certains, on se pose la question de faire des enfants. Avec quelle prise en charge pour nous ici? Le papa d'Aimé, Fabrice, a aussi pris la parole à la fin de cette marche blanche. Je n'en vois à personne, mais j'espère que ce drame va servir à stopper la fermeture des maternités partout en France. Une enquête de l'Agence régionale de santé est en cours au sujet de la mort de ce bébé. Le papa lui a déjà dit qu'il porterait plainte. Adi, Tommy Cataneo, France Bleu de Romardèche pour France Inter.
Tommy Cataneo. À Strasbourg, on l'a appris ce matin, une stèle rappelant l'emplacement de l'ancienne synagogue dynamitée par les nazis a été vandalisée la nuit dernière. La mairie dénonce un nouvel acte antisémite. Les responsables sont activement recherchés. Un nouveau samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. De nombreux collectifs organisent encore aujourd'hui des rassemblements un peu partout en France. À Paris, une manifestation est organisée en ce moment entre l'Arc de Triomphe et la place d'Enfer Rochereau. Un rassemblement international est même organisé à Lille avec d'autres gilets jaunes venus de Belgique, du Royaume-Uni ou encore des Pays-Bas. Elles finissent par devenir un problème pour l'écosystème en Île-de-France, les perruches vertes à collier. On en voit de plus en plus de ces oiseaux exotiques qui nichent dans les arbres autour de Paris. Une espèce classée invasive qui se développe au détriment des espèces indigènes. Leur multiplication inquiète. Yann Gallic.
On les voit déployer leur plumage vert au sommet des arbres et dans le ciel de la région parisienne. Les perruches à collier sont de plus en plus présentes. Depuis 2012, des comptages sont même réalisés pendant la période hivernale sur les dortoirs où se regroupent ces oiseaux. Paul Hurel est ingénieur à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
En Île-de-France, on en retrouve depuis les années 70. Il y a eu des introductions en fait involontaires. Les perruches à collier avaient été importées pour être vendues en animalerie. Il y a eu des échappées, notamment des aéroports de Roissy et d'Orly. On observe les perruches à collier de plus en plus fréquemment en Île-de-France. Au mois de décembre, on a comptabilisé à peu près 5300 perruches sur quelques sites de regroupement hivernaux sur la région.
Originaire des forêts tropicales d'Inde et d'Afrique subsaharienne, ces perruches se sont adaptées à notre climat et leur prolifération pourrait avoir un impact sur l'écosystème.
On peut avoir des impacts sur des espèces qui sont dites locales, puisque la perruche à collier va nicher surtout dans des infractuosités au niveau des arbres. Des arbres fruitiers sont ébourgeonnés par ces perruches-là. Alors, il y aura dans les prochaines années des effets qui peuvent devenir assez impactants pour l'activité humaine et où le caractère envahissant se rajoutera à cette espèce qui est dite pour l'instant exotique.
Même si la vente des perruches à collier reste autorisée, aujourd'hui la réglementation interdit l'introduction de ces oiseaux dans le milieu naturel.
Et on reste les yeux en l'air avec les 50 ans du Concorde. C'est l'anniversaire aujourd'hui du premier vol de l'avion supersonique. Paris-New York en 3h30 à 2200 km/h. La prouesse technologique est entrée dans l'histoire de l'aviation. Un demi-siècle plus tard, les deux avions exposés au musée Aéroscopia de Blagnac, près de Toulouse, attirent toujours beaucoup de visiteurs. Stéphane Iglesis, Concorde, même à l'arrêt, reste un bel oiseau.
Le 2 mars 1969, Concorde fait donc son premier vol d'essai. Six mois après, c'est le premier vol supersonique. André Turca le commente au micro de l'ORTF.
Pendant que mon camarade Pinet pilotait, je lui ai simulé successivement des pannes de tous les systèmes de stabilisation. Et puis enfin, la réduction brutale et complète d'un moteur.
Devant les visiteurs du musée Aéroscopia, Jean-Xavier Naillet, guide médiateur, explique l'échec du Concorde.
En 1973, choc pétrolier. Les compagnies aériennes qui avaient commandé des Concorde, la plupart vont faire faillite, pas à cause des Concorde, elles ne l'ont pas encore acheté, mais à cause du coût du pétrole, vont faire faillite. Ce qui fait qu'en 72-73, toutes les commandes des Concorde vont s'annuler les unes après les autres. Et fin 73-74, on ne se retrouve plus qu'avec 14 commandes, 7 pour British Airways, 7 pour Air France.
Parmi ses visiteurs, Ludovic, il est ingénieur et formateur, cet avion l'impressionne toujours.
C'est l'avion de tous les records, aérodynamisme, vitesse, le Mach 2, quoi. C'était vraiment énorme pour un transporteur de passagers. Aujourd'hui, on n'en voit plus, quoi.
Concorde n'a pas eu de successeur dans l'aviation civile et Tom Enders, le PDG d'Airbus, a d'ailleurs précisé il y a 15 jours que le supersonique n'était pas sa priorité. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Le sport avec d'abord Perrine Laffont, la Française qui conserve son titre de championne du monde en ski à bosse. L'Ariégeoise n'en finit plus de ravir les titres les plus prestigieux, elle qui était déjà championne olympique. La voici donc pour la deuxième fois consécutive au sommet du podium mondial. En football, à suivre cet après-midi, Camp PSG, dernière sortie pour les Parisiens avant leur huitième de finale. Retour mercredi en Ligue des Champions, ce sera face à Manchester United. Le sport en uniforme maintenant. Non, étonnante compétition internationale qui commence aujourd'hui en Californie, les Marine Trials. 10 militaires français y participent, ils ont été sélectionnés par la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Le tournoi contribue à leur reconstruction physique et mentale à travers les entraînements et une dizaine d'épreuves sportives. Loïc Piala est allé à leur rencontre.
À en juger par sa foulée sur la piste, l'adjudant-chef Pierre a l'air en pleine forme. Mais le stress post-traumatique est une blessure invisible. Après plus de 10 ans de service, il quittera bientôt l'armée de terre.
Enfin, je suis en début de reconversion et c'est vraiment, vraiment la fin, quoi. Enfin, je me dis, je finis en beauté sur une compétition de sport.
Une compétition à laquelle participent 200 militaires d'Europe et d'Amérique, des frères d'armes comme les appelle le sergent Pierrick. Les séquelles d'une blessure par balle empêcheront probablement ce membre d'une unité d'élite de retourner au combat.
Souvent on a un rejet avec les autres personnes qui n'ont pas été blessées, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a pu vivre ou ce qu'on vit. Donc là forcément, même s'il y a la barrière de la langue, le fait que ce soit des soldats qui ont été blessés pour leur pays, on se comprend naturellement.
À l'entraînement de volleyball assis, Américains, Colombiens et Français jouent ensemble, mais tous ces militaires en mission continuent de représenter leur pays. L'adjudant-chef Stéphane accompagne la délégation.
On est là pour la reconstruction par le sport, on est vraiment là pour entériner cette phase qui est importante pour eux. La médaille est presque secondaire. Maintenant, on n'est pas venu là pour éplucher de l'ail. Si on peut ramener des breloques, une coupe, ça concrétise un peu leurs efforts, leurs souffrances.
À Camp Pendleton, Loïc Piala pour France Inter.
La prescription culturelle du 13h à présent. Avraham Yehoshua, un des plus grands écrivains israéliens qui, comme son ami Amos Oz, conjugue littérature et engagement politique. Il publie Le Tunnel, roman sur la tendresse infinie d'un couple face à l'épreuve de la maladie. Ilan Amor Youssef.
C'est l'histoire d'amour d'un homme de 73 ans pour son épouse de 65 ans, racontée par un écrivain de 82 ans. Le thème du couple traverse toute l'œuvre d'Avraham Yehoshua. Pour ce dernier roman, il s'inspire de celui qu'il formait avec sa regrettée Ika.
Je crois qu'il y a des mariages qui marchent très bien, avec beaucoup d'amitiés, avec beaucoup d'amour. Je pense que la littérature et le cinéma utilisent les crises dans les mariages pour faire de bonnes histoires.
Sauf que dans Le Tunnel, Dina et Zvi font face à un obstacle particulièrement sournois, la démence qui s'empare peu à peu du cerveau de Zvi. Les prénoms lui échappent, puis le code de démarrage de sa voiture, et ainsi de suite. Mais pas question de baisser les bras.
On doit lutter ensemble contre cette maladie et il y a beaucoup d'actions qui sont mentales. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de physique. On ne peut pas prendre une pilule contre cette maladie. Le problème est comment, comme le neurologue dit au commencement, l'âme doit lutter contre le cerveau.
Sur le mode de la comédie et avec une grande tendresse, Avraham Yehoshua lance ses personnages dans une bataille dont l'issue ne fait pas de doute, mais même malade, l'ingénieur Zvi entreprend la construction d'un tunnel destiné à épargner l'habitat d'une famille arabe. La mémoire des souffrances du passé, semble dire l'auteur, ne doit pas être un obstacle à la vie au présent.
Le tunnel d'Avraham Yehoshua, traduit de l'hébreu par Jean-Luc Alouche, publié aux éditions Grasset. Et puis deux conseils du service culture d'Inter pour ce week-end. La Fondation Vuitton au bois de Boulogne, près du jardin d'acclimatation, pour une exposition lumineuse. Le Parti de l'impressionnisme, une des plus riches présentées en France depuis 60 ans. Plus de 80 chefs-d'œuvre, dont les joueurs de cartes de Cézanne, mais aussi des toiles de Manet, Renoir, Gauguin et bien sûr Monet. Et puis à écouter et réécouter Alain Bachung en intégrale pour les 10 ans de sa disparition. Universal édite un coffret avec tous ses albums, plus des inédits. France Inter consacrera toute une semaine à Alain Bachung à partir du 11 mars.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne?
Encore une journée de départ et de retour en vacances sur les routes, en particulier dans l'est de la Bourgogne et dans les Alpes. Ce samedi est classé orange dans le sens des départs et des retours. Valentine Joubin, en direct du PC Mobilité de Radio France, vous nous confirmez un trafic chargé aux abords des stations de ski?
Oui, les embouteillages les plus sérieux sont sur l'A43 de Chambéry vers les stations savoyardes. La vallée du Grésivaudan est particulièrement chargée en ce moment à la jonction entre l'A43 et l'A41. Le mieux, si vous le pouvez, c'est d'ailleurs d'éviter tout simplement de circuler sur cette A43 jusqu'à 17h entre Lyon et Chambéry dans les deux sens de circulation. Il y a du monde aussi en direction des stations iséroises. La traversée de Grenoble est difficile par l'A48. C'est chargé aussi sur la Nationale 85 dans les deux sens de circulation pour quitter comme pour rejoindre la vallée de la Romanche. Enfin, attention, si vous empruntez le contournement est de Lyon, un accident s'est produit au niveau de l'embranchement entre l'A46 et l'A42. Il y a déjà 20 minutes de ralentissement de Vaux-en-Velin jusqu'à Néron.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Le temps, Jean-Michel Golinski.
Les systèmes dépressionnaires qui vont circuler ces prochains jours sur les îles britanniques vont donner à partir de demain une ambiance agitée dans la moitié nord du pays, ceci en raison du vent sensible, le tout accompagné ce dimanche d'une ambiance souvent maussade entre le nord de la Loire et le nord de la Seine. Aujourd'hui, une première onde pluvieuse traverse rapidement le pays. Elle concernera cet après-midi les frontières de l'Est avec un peu de neige à partir de 1200 mètres. Mais après la pluie, c'est un ciel beaucoup plus clément qui s'installe par les régions d'une large moitié ouest. Les températures au-dessus des normes vont s'échelonner entre 13 et 17 degrés du nord vers le sud-ouest. Il fera jusqu'à 20 degrés cet après-midi sur le département du Gard.